Vous écoutez RTL.
Matin. Laissez-vous tenter.
Avec Philippe Corbet.
Et nous sommes ravis d'accueillir dans ce studio de RTL Matin Vincent Cassel et François Cluzet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On vient de servir des viennoiseries à Vincent Cassel et François Cluzet avec un café. Bienvenue pour petit déjeuner. Vous serez à l'affiche demain du film Un moment d'égarement. C'est un film de Jean-François Richet. C'est la version 2015 d'un long métrage de Claude Berry sorti en 77. Le nom est peut-être moins sombre. Il s'agit d'une vraie comédie. On va en parler avec Stéphane Boutsock. Nous allons vous offrir au 3210 des places pour aller découvrir ce film sur grand écran demain. Et puis à la télé ce soir sur France 2 à 20h50, place au rendez-vous annuel du village préféré des Français présenté par notre camarade Stéphane Bern. C'est une jolie balade à travers 22 villages de France et autant de régions.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Mais d'abord Stéphane Boutsock, on va rendre hommage ce matin à un des plus grands noms de la musique de film. James Horner est mort dans un accident d'avion.
Oui, on a appris ça très tôt ce matin. James Horner avait 61 ans. Il s'est écrasé hier aux commandes de son avion en Californie. Il avait révolutionné la musique de film dans les années 80 avec l'utilisation, c'était le premier, de sons électroniques, de chants tribaux et de thèmes traditionnels. Alors parmi les grandes bandes originales composées par James Horner, on peut citer 48 heures, Cocoon, Braveheart, Jeux de guerre, Apollo 13. C'était le compositeur attitré d'un Français, Jean-Jacques Haneau, et puis évidemment, à son actif, tout simplement les deux plus grands succès de l'histoire du cinéma. D'abord en 1997, le film Titanic. Titanic, donc, de James Cameron en 1997, et puis en 2009, le plus grand succès de l'histoire du cinéma.
Avatar.
James Horner, disparu tragiquement cette nuit à l'âge de 61 ans.
Oui, rien à voir avec Horner. On précise à Vincent Cassel qui se pose la question. Ça s'écrit pareil. Il y a quelque chose dans les accordéons, les violons, tout ça. Voilà. Vincent Cassel et François Cluzet sont avec nous pour nous parler d'un moment d'égarement. Il y a presque 40 ans qui séparent le film de Claude Berry et celui de Jean-François Richet. Vous vous souvenez de ce film de Claude Berry? Vous avez revu le film avant de tourner la version de Jean-François Richet ou pas?
Tous les deux, on l'avait vu à l'époque où il était sorti, et tous les deux, on l'a revu. Je parle pour toi, Vincent.
C'est sympa.
Et tous les deux, tu parleras pour moi après. On l'a revu au moment de préparer le film.
Alors, je suis sûr qu'il y a certains de nos auditeurs qui vont découvrir cette histoire en allant voir le film demain au cinéma. On va d'abord rappeler, Stéphane, de quoi il s'agit.
Alors, Antoine et Laurence sont ce qu'on appelle des amis de 30 ans, en délicatesse, on va dire, avec leur vie sentimentale. Ils ont décidé de partir en vacances en Corse, accompagnés de leurs deux filles, Luna, Marie, deux filles en passe de devenir des femmes, et l'une d'entre elles, Luna, n'est pas insensible au charme quinquagénaire de Laurent, le pote de son père. Un soir, il y a une fête arrosée, l'adulte va céder à un moment d'égarement qui va évidemment changer le cours du séjour. Luna est amoureuse, Laurent regrette, Antoine traque le salaud qui a défloré sa fille, et Marie, la sienne, a tout compris. Extrait.
Non mais t'imagines, Luna, mon bébé, avec un vieux con de 45 ans. Non, mais imagine deux secondes. Et tu vois, tu peux même pas imaginer pourquoi. Parce que c'est inimaginable. Je fais le fumer.
Elle t'a dit qui c'était?
Non, je vais le trouver, va, t'inquiète pas.
Tu sais, tu sais pas qui c'est, ça va pas être facile, hein. Le corps, c'est grand quand même.
C'est grand, mais c'est petit aussi. Puis tu vas m'aider.
C'est-à-dire? Moi, je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ben, ta fille, elle doit le savoir.
Ah, Marie? Elle me laisse tomber. Alors, Marie ne compte pas dessus. C'est une barre de fer. Jamais elle trahira sa copine, jamais, je la connais.
Il va payer, crois-moi.
Alors, le ton du film est moins sombre, moins grave peut-être que celui de 77. Vous diriez quoi? Il s'agit d'une comédie de mœurs, puis en plus vous êtes des papas, donc j'imagine que le sujet doit vous concerner. Vous avez des filles en plus, me semble-t-il. Comédie de mœurs, ça vous va?
Oui, absolument. C'est une comédie de mœurs. C'est vrai que le ton adopté sur cette nouvelle version de cette histoire tire peut-être plus vers la comédie que le film qu'avait réalisé Claude Berry. Mais enfin, le sujet reste le même quand même. Et on parle d'une relation entre un homme donc de 45-50 ans avec une fille encore mineure. Donc c'est une comédie, mais d'où sa mère? Une comédie de mœurs.
Et puis il y a toujours une carabine hein, qu'a François Cluzet pendant tout le film. Et...
Oui. Toujours armé.
Toujours armé, François Cluzet.
Pour obtenir mon salaire.
Et vous reprenez en fait dans le film les rôles tenus à l'époque par Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoux. C'est pas facile de passer après eux, en plus dans un registre un peu différent. C'est pas facile de se positionner.
Oui, mais bon, en même temps, si vous voulez, c'est une partition. Les musiciens connaissent ça, ils reprennent des partitions. On n'avait pas en tête obligatoirement, moi, même si j'avais beaucoup d'admiration pour Lanoue dans le film original, je ne l'avais pas en tête. Je me disais que c'était une nouvelle adaptation. Une nouvelle... 40 ans se sont passés. Hein. La société a beaucoup évolué, d'ailleurs.
Et c'était Agnès Sorel qui jouait le rôle de la jeune femme, Luna, qui est interprétée dans ce film.
Le thème aussi important du film, c'est l'amitié trahie entre vous deux. Parce que
surtout.
Vous avez fait des... Voilà, c'est ça. Le mensonge qu'on est obligé de faire à l'autre. Ce que vivent Antoine et Laurent, c'est quoi ? C'est quasiment un amour déçu, quoi. C'est vraiment deux potes qui vont peut-être se séparer.
On peut voir ça comme ça. C'est vrai, ça serait une deuxième histoire d'amour à l'intérieur du film. Mais c'est ça, c'est tout le ressort comique du film tient en fait sur le fait que Laurent, donc que j'interprète, est dans une situation complètement inavouable et doit aider son ami qui veut se venger de tout. Donc oui, c'est ça, c'est l'incommunicabilité dans l'amitié qui fait que le film est drôle, je crois, à beaucoup de moments.
Ça permet de voir Vincent dans tout son répertoire de lâcheté, d'hypocrisie, ouais, de veulerie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est, moi, j'ai un rapport fusionnel avec ma fille, donc j'ai l'impression que c'est mon enfant, c'est mon bébé, en même temps c'est ma petite femme, parce que ma vraie femme est partie en vacances à Ibiza, ce qui m'inquiète évidemment. Et le vrai film, il est à l'intérieur de ça, c'est-à-dire de cette amitié trahie quand je demande à Vincent, qui joue Laurent, de m'aider à trouver ce salopard.
Cette amitié, on la sent vraiment à l'écran, ça marche très bien entre vous. Vous vous connaissiez avant le tournage ?
Non.
Non, et d'ailleurs, c'est pas tous les jours facile de travailler avec François, mais bon, on est des professionnels et du coup, il fallait qu'on ait l'air copains.
Alors, c'est pas facile non plus parce qu'il est plus petit que moi, donc il faut toujours le rehausser dans les plans. Il est aussi plus vieux, donc il faut aussi le maquiller. C'est pas simple. Hein. Pour lui, ça n'a pas été simple. D'où la rivalité immédiate qui s'est passée.
Non, mais disons. Il y a le salaire aussi qui est très différent.
Alors, moi, je suis armé pour ça. Mais disons que c'est la partition. Vous devez jouer les meilleurs amis du monde. Alors, soit ça marche, soit ça marche pas. Je dois dire, la façon dont Vincent m'a accueilli, ça a marché tout de suite.
Alors, vous avez en apparence, pour ce qu'on en sait nous, un tempérament assez différent. Vous, Vincent, et on écoutera Jean-François Richer tout à l'heure, on dit de vous, il est dans l'instinct. Vincent, François, plus intériorisé. Comment l'un et l'autre parieriez-vous justement du caractère de l'autre ?
Alors c'est marrant parce que effectivement on n'a pas exactement la même manière de se préparer ou de se concentrer, mais finalement c'est assez compatible. François a une tendance à plus rentrer, se concentrer, s'isoler, et moi au contraire je cherche absolument le contact et à lui raconter tout et n'importe quoi juste avant les prises. Et comme il était assez client finalement, on a trouvé un espèce de mode de communication comme ça qui a assez fonctionné. Je dirais. L'important, c'est pas tellement comment on arrive au résultat, c'est le résultat. Et là, pour le coup, ça a marché.
Mais les premières semaines, il déconnait beaucoup, donc je riais beaucoup. Puis après, je me suis dit, mais si j'y arriverai pas, il faut que je me concentre. Donc, je l'ai un peu échappé. Je me suis dit, bon, continue, je vais m'isoler un tout petit peu. Il y avait une très bonne ambiance sur le tournage aussi, parce que c'est la comédie qui veut ça. C'est-à-dire que vous devez toujours être dans une humeur légère. Mmh. Et puis, ça s'est très bien passé avec les deux filles, Lola Lolan et Alice Izaz, qui débutaient. Bon, Alice un peu moins que Lola. Lola connaissait même pas un plateau de cinéma. Donc, on était aussi assez proche d'elle. Vincent pour les détendre et moi en secours s'il y avait quelque chose.
Moi, je détendais surtout Lola.
Et vous pourrez le voir, ce film demain, cette comédie, Un moment d'égarement au cinéma. On va vous offrir d'ailleurs des places pour aller voir ce film.
Je n'ai pas vu encore ça.
Bah, non, c'est cher.
Il faut que vous appeliez le 3210 et répondre à la question que nous pose Stéphane.
Alors, dans quelle région de France se déroule le film ?
Le Languedoc.
Alors, c'est pas le meilleur, je le mets. Est-ce en Corse ou dans le Languedoc ?
Ah, facile. Voilà. Facile, c'est très beau. Vous appelez le 3210 et vous avez la réponse. Isabelle Morini-Bosse, les audiences télé, elle vient de tomber.
J'arrive. Alors, en tête, termine très très bien Esprit criminel sur TF1. 6 100 000 téléspectateurs et 24% du public. Ça ne me déplaît pas. Et alors, encore plus, me plaît, le résultat de L'amour est dans le pré sur M6. 5 900 000 téléspectateurs et 24% du public. 32% des fameuses ménagères, machin bidule. Vous vous rendez compte? 5 900 000, près
c'est
de
beaucoup,
6 millions.
Ouais.
Je suis absolument ravie. Et alors, en troisième position, La France en chanson, nettement au-dessus de la moyenne de la case. 2 500 000 téléspectateurs et 10% du public. Alors, la débâcle étant pour la série policière américaine de France 2, moins de 2 millions de téléspectateurs et moins de 8% du public. Pour Suspect numéro 1, New York. Pourtant, je trouve que moi, c'est une bonne série. Et alors, côté TNT, W9, incassable, 900 000 téléspectateurs.
On se retrouve dans un instant avec François Cluzet et Vincent Cassel à l'affiche demain de Un moment d'égarement. C'est un film de Jean-François Richer. On en parle juste après la pub.
RTL.
Première radio de France. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Philippe Corbet.
Si vous voulez voir Vincent Cassel danser sur cette musique, il faut aller voir Un moment d'égarement.
Avec un ballet.
Avec un ballet.
Je danse avec un ballet à ce moment-là.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mm-hmm. François Cluzel, lui, ne danse pas, mais il est aussi dans ce film de Jean-François Richer qui sort demain au cinéma. Ce registre, la comédie, ça vous va très bien. On ne peut pas dire que vous en abusiez l'un et l'autre dans le choix de vos rôles. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi hésitant avant de choisir des comédies?
Souvent parce qu'elles sont mal écrites et que c'est souvent un peu la fête de la bière ou alors gag sur gag.
Ouais.
Et je pense, en tant qu'acteur, ce qu'on privilégie, c'est les situations. Les situations dans lesquelles vous pouvez, même muette, être ridicule ou être drôle.
D'ailleurs, vous aviez déjà tourné avec Lisa Azuelos, qui signe le scénario de ce film l'année dernière.
Tout à fait.
Une rencontre avec Sophie Marceau. Et vous, Vincent Cassel, les comédies?
Écoutez, j'ai jamais été contre les comédies. J'avais l'impression de faire des comédies. Les gens ne comprenaient pas que c'était drôle et me disaient que c'était un film d'horreur. Du coup, je me suis dit, bon, je vais être plus clair dans le message. Mais c'est vrai qu'en fait, on m'avait pas proposé grand-chose comme comédie. J'étais pas contre l'idée d'en faire. Mais je trouvais que souvent en France, on a une tradition de comédie, en fait, en France. Ce sont souvent des films qui sont assez mal filmés, assez mal éclairés, basés beaucoup sur le rythme des acteurs, mais avec une mise en scène assez ledge, et qui s'exporte très mal. C'était un peu pour moi, c'était un peu ça, la comédie française. Donc j'attendais d'avoir un projet qui soit... un peu sexy et qui a un petit peu de gueule formellement, ne serait-ce que ça. Donc là, je crois qu'on a réussi ce pari-là.
C'est vrai que c'est très beau, le film est très beau formellement, au-delà de l'histoire, c'est vraiment très beau. Les images de cette région qu'on ne va pas citer, mais qui est magnifique.
Alors, vous partagez l'affiche avec deux jeunes comédiennes, on rappelle leur nom et leur prénom, Lola Lelanne et Alice Izaz. Vous avez tous les deux, évidemment, un statut, une carrière déjà. J'imagine que pour des jeunes comédiennes qui arrivent, notamment Lola, c'était son premier film, ça doit être... un peu impressionnant. Est-ce que vous étiez aussi des papas hors caméra?
Moi, je peux vous dire un truc, c'est que je les ai vite mis à l'aise, hein, quand même.
C'est-à-dire?
Vous pourriez leur demander si vous les croisez, mais disons que il fallait pas leur laisser le temps de réfléchir. Donc, c'était tout de suite les amuser, les déconcentrer, être sur le... En fait, un peu comme dans le film, quoi. Finalement, le rapport est à peu près le même. Attention, entendez-moi bien. Aucune actrice n'a été tripotée pendant ce tournage.
Oui, ce qui se passe sur la plage, c'était pour le film.
Bien évidemment, d'ailleurs, vous avez vu que je rassure les gens qui écoutent ce matin, il n'y a rien de déplacé, le film est très pudique. Et d'ailleurs, je tiens à dire à ce propos qu'il a toujours été très important pour nous de resituer un peu justement les choses dans l'époque. On n'est plus dans les années 70, on est en 2015. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui au cinéma, et d'ailleurs dans la vie, on ne pouvait pas les faire déjà à l'époque. Mais on a fait attention justement que l'humour du film ne se fasse jamais au détriment des personnages féminins du film. Ce n'est pas un film de mecs, c'est peut-être une ode des filles à leur père, des pères à leurs filles, mais ça ne s'aventure jamais dans le graveleux.
Et il y a beaucoup d'ados qui vont se reconnaître dans ces deux ados qui sont dans le film, qui sont assez formidables.
François, ce côté paternel, avec les deux jeunes comédiens.
Non, mais on avait beaucoup de travail, et elles ont beaucoup de scènes dans le film. Donc l'idéal, un peu comme le disait Vincent, c'est de ne pas les laisser souffler. Bon, pour Lola qui découvrait ce qu'était un plateau de cinéma, c'est évidemment beaucoup de choses. Mais elle le disait elle-même hier, elle se sentait jamais tendue. Pourquoi? Parce que nous autres, notre intérêt, c'est d'avoir les partenaires les plus confiants. Mmh. On sait très bien que la grande star du film, c'est le film lui-même. Donc meilleur le film est, plus on a de chances qu'il soit vu. Donc c'est l'histoire d'un partenaire. Un acteur, c'est un partenaire. Donc là, on était quatre, il fallait qu'on joue ensemble et que quatre, on soit les plus inventifs et les plus crédibles aussi dans le rôle de l'amitié entre Vincent et moi et dans nos rôles de père avec elles deux.
Vincent Cassel, François Cluzet, depuis Mesrine pour l'un, depuis Un touche à pour l'autre, vous vous êtes perçu différemment par le public. Vous vous en rendez compte, ça?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Est-ce que c'est pas une vue de l'esprit?
Je suis pas sûr. Quand on fait d'un côté 20 millions d'entrées et d'autres Mérine sur les deux films, ça doit être...
Deux.
Non. Ça doit être plus de trois sur les deux films.
Oui, non, cinq en fait, en l'occurrence.
C'est quand même des gros scores.
Ce sont des films qui restent dans les familles, en DVD, qu'on regarde à la télévision quand ils passent. Ce sont de grands films du cinéma français aujourd'hui.
C'est important de faire des films dont les gens se rappellent, de toute façon. Donc, dès qu'on marque des points en tant qu'acteur, c'est-à-dire dès qu'on appartient à une aventure comme celle-là, comme celle de Mérine ou celle d'Intouchable, c'est sûr qu'on rentre un petit peu plus dans la conscience collective des gens et c'est un peu notre but à nous, les acteurs.
Moi, j'ai couru 70 ans après un succès, donc j'étais content de l'avoir.
Ne faites pas. J'ai rencontré le metteur en scène qui a eu la bonne idée de vous réunir devant sa caméra, Jean-François Richer, et je lui ai demandé simplement de me parler de vous deux.
Dès que c'est un mec 45 ans, autour de 45 ans, je pense à Vincent Cassel.
Je sais pas si c'est un double, je sais pas, on sait rien.
C'est super difficile, quoi. Et je le trouve crédible en tout. J'ai tellement de films en tête que j'ai envie de faire avec lui qu'on ne pourra pas tous les faire, quoi.
Alors François, maintenant?
Ouais, la princesse, c'est une super surprise, quoi. Pas une surprise de jeu, parce que ça, évidemment, on le sait, quoi. On sait qui c'est. Mais humaine, il est vachement dans la concentration. Et c'était très intéressant de voir ces deux animaux ensemble. Au-delà du respect, c'est que si les acteurs se considèrent comme des stars et qu'un metteur en scène les considère comme des stars, ça peut pas marcher. Mais ce sont des acteurs, eux. Ils se considèrent comme des artisans, comme moi, je peux me considérer.
Alors, il faut préciser aux auditeurs que c'est Thomas Langman qui produit cette nouvelle version d'Un moment d'égarement. C'est le fils de Claude Berry. Le fait que vous tourniez avec comme producteur le fils du réalisateur du film original, est-ce que ça a mis une ambiance particulière sur le tournage? Est-ce que vous y pensiez? Est-ce que c'était une référence au quotidien?
C'est une histoire d'inceste, quoi. Un peu comme dans le film, finalement, et tout se rejoint.
Franchement, c'est plus compliqué d'avoir un producteur qui est aussi impliqué dans l'histoire?
Vincent connaît bien Thomas parce qu'il a travaillé notamment sur Mesrine avec lui. Ouais. Moi, je le découvrais. Thomas, c'est un type qui a des fulgurances. Donc, quand il a une idée comme celle-ci, par exemple, penser qu'à travers tous les films de son père, c'est celui-ci dont il voulait voir une nouvelle version, c'est quelque chose qui était immédiat à la lecture, en se disant, finalement, ça reste un sujet de société, ça reste sulfureux. Entre parenthèses, d'ailleurs, dans le film original, la fille a 15 ans et demi. Aujourd'hui, elle en a 17 et demi. Vous voyez qu'on ne peut pas traiter les choses de la même manière que dans les années 70, où la libération des mœurs, libération sexuelle, peace and love et machin. Je trouve que Thomas a cette force d'embarquer en leader une aventure comme celle-ci.
Et puis, comme le disait Vincent Cassel, c'est tout en nuance et c'est très pudique. Dans le film, il n'y a pas de scène scandaleuse.
On a essayé, en tout cas.
On retrouve Vincent Cassel et François Cluzet dans un instant. Ils sont avec nous dans Laissez-vous tenter jusqu'à 9h30. On va aussi jeter un coup d'œil au programme télé avec Isabelle.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter
avec Philippe Corbet.
Vincent Cassel et François Cluzet sont avec nous jusqu'à 9h30 dans Laissez-vous tenter. On va parler télé avec Isabelle Morini-Boss. L'événement ce soir, c'est le village préféré des Français. C'est une spéciale qui permet depuis 4 ans aux internautes de voter pour leur village préféré. L'émission de France 2 est dédiée ce soir à Lilou, c'est cette jeune voltigeuse qui est morte jeudi dernier en chutant sur le tournage d'une autre émission présentée par Stéphane Bern.
Oui, l'accident est survenu juste avant le tournage du monument préféré des Français, au moment où Stéphane Bern tournait précisément dans une autre région les scènes finales du village préféré. Donc l'émission lui est dédiée. Alors, ce soir, vu qu'il y a 22 villages dans cette émission qui existe depuis 4 ans, on en a donc déjà distingué 88 des villages. Vous voyez, j'arrive à calculer jusque-là. Alors le public se demande souvent si on ne transforme pas des hameau en joli village pour l'occasion, un peu le syndrome du carrosse et de la citrouille. Eh ben non. Par l'émulation, de plus en plus de villages sont découverts et par l'émulation, de plus en plus de gens votent. 130 000 en 2013, presque 160 000 aujourd'hui. Alors l'équipe garde jalousement le secret sur le village préféré. Hein. Moi, le mien est en Normandie. J'ai eu beau soumettre Stéphane Bern à la question, il n'a rien dit. Il est en revanche intarissable sur les villages.
C'est vrai que depuis 4 ans, ça fait 88 villages. Et puis les villages gagnants et même les autres ont une affluence de touristes. C'est ça qui est incroyable. C'est pas un hasard. Isabelle, si 85 millions de voyageurs préfèrent la France, premier pays visité au monde, hein, on vient pas voir nos usines ni les râleurs que nous sommes, notre richesse patrimoniale, notre art de vivre, notre gastronomie, voilà ce qu'on vient voir. Eh bien, j'aimerais avec cette émission qu'on retrouve la fierté d'être français. J'ai regardé l'émission, là je me suis dit, elle est belle notre France. Elle est vraiment belle et nous devons l'aimer davantage.
Voilà, il ne le cache pas, il se sent investi d'une mission et de la mission à l'émission, il n'y a qu'un pas qui sera franchi à la rentrée. Il est un militant.
Vous savez, les gens vont s'entasser tous dans la périphérie des grandes villes, alors que c'est un vivier d'emplois, les villages. On cherche des artisans, des réparateurs, tous les métiers d'art. Il y a certains villages où c'est désespérant, parce qu'il n'y a plus que des marchands du temple, qu'il y a des vendeurs de souvenirs et de cartes postales, il y a des restaurants, mais vous n'avez plus de commerce, de proximité, les gens préfèrent aller dans les grandes surfaces à 10 km. Et vous savez, quand je défends ces villages, je me dis, la culture génère du tourisme, le tourisme génère de l'économie locale. Les gens s'arrêtent, vont à l'auberge, dépensent, et donc vous créez de l'économie, vous relancez la machine. Donc ça, c'est très bon pour l'emploi. Moi, je suis absolument pas passéiste. Je suis pour qu'on conserve le patrimoine, mais qu'on aille de l'avant. Plus il y a de gens qui viennent, plus les petits maires des communes qui n'ont plus de subventions peuvent trouver des moyens pour préserver, protéger, aider les habitants, plutôt que de faire construire des lotissements et qu'on peut rénover des vieilles maisons. Et c'est tout le charme des villages.
Ça, c'est à 20h50 sur France 2.
Et c'est Anthony Martin qui fait la voix off admirablement.
En deuxième partie de Soirée sur la 3, le divan de Marc-Olivier Fogiel qui reçoit Claire Chazal.
Oui, elle est momentanément délocalisée sur un divan et de la une sur la 2, elle qui a toujours, si j'ose dire, refusé la promotion canapé, la 3, oui, la promotion canapé. Claire Chazal est la dernière invitée de la saison avant retour de Marc-Olivier Fogiel en septembre pour la saison 2. On est surtout intéressé par les silences de la journaliste et l'accompagnement de Marc-Olivier Fogiel, mais écoutons Claire Chazal au micro de Laurent Marsic, c'est une exclusivité.
Moi, je trouve que ce divan de Marc-Olivier est une réussite totale, non seulement parce que l'émission est très fouillée, très intelligente, mais aussi parce que Marc-Olivier y apparaît tel qu'il est vraiment. Non pas quelqu'un qui précipite son interviewé, mais au contraire qui lui laisse le temps. Intéressé, pas complaisant, jamais, mais toujours bienveillant, et surtout intéressé par la parole comme par les silences, et essentiellement par l'autre, celui qui est en face de lui. Je pense que c'était d'ailleurs sûrement plus compliqué pour lui, parce qu'il avait le souci de ne pas me brusquer, et de ne pas me mettre mal à l'aise. C'est pas du tout le propos de l'émission et c'est ça que j'aime. C'est évidemment un peu vertigineux parfois, c'est une plongée dans le passé et tout ça vous bouscule mais vous oblige aussi à la concentration. C'est une émission qu'on ne fait pas à la légère.
C'est donc Le Divan ce soir 23h10 sur France 3. On se retrouve dans un instant avec Vincent Cassel et François Cluzet.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Philippe Corbet.
Allez tous voir Un moment d'égarement de Jean-François Richer avec Vincent Cassel et François Cluzet qui étaient avec nous depuis 9h dans Laissez-vous tenter. Ça sort demain au cinéma, c'est très drôle et pas que drôle. Et si vous ne voulez pas payer votre place pour aller le voir, on vous faisait gagner des places avec Stéphane Boutsoy qui fallait nous dire dans quelle belle région de France se passe le tournage.
Les garçons, il faut répondre. Bah, bien
ouais.
sûr.
Ça se passe.
J'hésite.
Ça se passe en Corse.
En Corse. Magnifique.
Ville de beauté.
Magnifique. Très très belle dans le film. Puisque vous êtes là, c'est une journée spéciale sur RTL aujourd'hui sur le lancement de la candidature aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Vous êtes plutôt enthousiaste à l'idée de. Voilà, qu'on
Moi,
se lance.
Je voudrais que Yves Calvi ait une médaille. Donc je suis très enthousiaste.
Il nous écoute en ce moment. Donc Yves, si tu nous, puisque tu nous écoutes, il faut que tu te prépares pour les JO 2024. Et vous, Vincent Cassel?
Écoutez-moi, de savoir que tout d'un coup la ville va être complètement, éventuellement, squattée par des millions de gens. Sachant ce que ça coûte, je suis toujours inquiet quand on me dit qu'il y a un événement comme ça qui arrive. Hein. Mais bon.
C'est pour faire la fête. Pour faire la fête.
C'est une fête qui revient très cher, ouais. Hein, ne l'oublions pas quand même.
Vincent Cassel, François Cluzet, donc dans ce film Un moment d'égarement, demain au cinéma avec RTL. Bonne journée à tous. Bonjour Julien Courbet.
Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Eh ben super. Écoutez, enfin, je ne sais pas si ça va parce que j'ai Julie qui est à côté de moi. Écoutez ce qu'elle nous a dit, Julie.
J'ai prêté de l'argent à mon ex et malgré une reconnaissance de dette, je n'ai plus aucune nouvelle de sa part.
Donc, alors bah, Julie,
voilà,
moi j'ai 23 ans.
Ça, t'étais pas obligé de le dire.
Si.
Tu dis ça, Julie. Écoute Julie, tu dis ça devant tout le monde.
Alors c'est lequel des trois, Julie ? Vous m'entendez ? Oui, allez-y, balancez le nom.
Oui, bonjour. Non, mais en fait, là, je suis pas contente du tout parce qu'en fait, c'est Philippe Corbet qui me doit de l'argent.
Bah non ! Voyez, on aurait pu croire que c'était les deux sacs symboles. Ben non, c'est Corbet.
Bah oui, pas de chance. J'ai pas d'argent sur moi, bonne journée.
Ciao, ciao.